l'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic, Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
On s'enligne pour un 4 heures de radio en ligne. Premièrement, c'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Salut Audrey.
Bon matin.
Bon mercredi.
Déjà.
C'est nuageux.
C'est vraiment lait.
Il pleut.
Ah oui.
On va-tu s'en sortir?
Non.
Regarde cette neige-là qui est toute grise, toute... presque noir dans le stationnement. Ouais. Chez nous aussi, on dirait que la personne qui faisait le déneigement chez moi envoyait la neige sur mon terrain, puis il y a des petits cailloux, puis la neige est vraiment pas très blanche.
Hein. Ah, nous autres, ça a fondu, par exemple.
Ça a l'air comme un peu d'une soie.
Non, c'est dégueu. C'est vraiment ce bout-là de la neige.
On va remédier ça ce week-end. On a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas grave. On a combien de jours de congé en fin de semaine? Là?
4.
On a vendredi,
ouais.
Samedi, dimanche, puis on a-tu lundi?
Absolument.
C'est vrai?
Mais nous autres, c'est un férié qui a été reporté. Normalement, les gens en ont 3.
Okay.
Nous, c'est vraiment que c'est un férié reporté, ce qui fait qu'on est 4 jours off.
Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 4 jours-là?
Ben là, moi, mon rock and chill bouge pas, fait que j'ai vendredi, lundi de congé complet, mettons, là. Mais je vais être dans le coin, je vais prendre l'air, je vais prendre ça tranquille.
Parlant du rock and chill, des auditeurs qui m'ont écrit la semaine passée, des auditeurs qui sont assez alertes. Et qui ont dit, Yann, comment Pinchot a pu te dire qu'elle partait pour une fin de semaine silencieuse de 2 jours?
Ah oui, mais là, c'est
alors
temps.
Que
oui.
Le matin, puis moi, j'étais dans ma voiture,
oui.
J'entendais la petite Pinchot.
Oui. Bien, ça, je vais vous expliquer, parce que des fois, on ne peut pas être constamment présent. Des fois, je préenregistre.
Fait que t'as préenregistré. Fait que t'as,
ben oui,
t'as
quand c'est prévu d'avance, là.
T'as privilégié.
Ma santé mentale, absolument, Yannick.
Avant tes émissions de radio.
Oui. Très assumé.
Moi, je fais le contraire.
Ouais, c'est ça. Mais je suis en train d'essayer de switcher ça, vois-tu? Là, ça faisait partie du but. Mais non, dans ce temps-là, j'ai pris un registre. C'est comme il y a un dimanche, il y a une couple de semaines, j'avais une partie de golf avec Véro à 8 h le matin. Fait que, étant donné que c'était prévu d'avance, ben, j'ai pris un registre.
T'as enregistré le début.
Ce moment-là.
Ah,
exactement.
Voilà. C'est très intelligent. Hey, c'est 3 degrés sur Québec. Je sais pas si vous êtes dans quel secteur, vous autres, mais il doit pleuvoir comme ici. C'est un peu triste. Des averses pour toute la journée avec des nuages pour ce soir et de la pluie. On dit que la pluie devrait cesser ce soir et ou cette nuit, selon Environnement Canada, minimum de moins 2 degrés. Pour ce qui est de jeudi, jour de paie pour certains, un ciel dégagé avec un maximum de 7. En matinée, on parle de rafales à 50 km/h. Et vendredi, premier jour de congé, eh bien, ce sera une alternance soleil-nuage avec un maximum de 12. Samedi, de la pluie, maximum de 9. Et dimanche, ce sera alternance soleil-nuage avec un maximum de 7 degrés. Tu vas-tu aller chercher de l'eau de Pâques? Ça se fait-tu encore? Puis quand est-ce que tu fais ça, aller chercher de l'eau de Pâques?
Le dimanche de Pâques.
C'est le dimanche de Pâques.
Ouais.
Là, où tu te lèves à 4h30, 5h.
À peu près.
Puis là, il faut que tu aies trouvé une source.
Oui, là, c'est ça. Là. Dépendamment d'où tu habites, ça peut devenir vraiment compliqué.
En ville, c'est un peu plus difficile
ouais.
De trouver des sources.
Bien, nous, en ville, ce qu'on faisait chez mes parents quand j'étais plus jeune, on prenait noix de coco. Quand c'est la noix de coco, puis c'est l'eau de coco qu'on buvait, dans le fond. Pour Pâques. Fait que ça, c'était comme la tradition un peu transformée pour essayer de reproduire le principe.
T'es-tu obligé de la boire? Sinon, ça marche pas?
Ben, je pense qu'il faut que tu la bois. Là. C'est un peu ça le principe du partage. Là.
On dit l'eau de Pâques, cueillette, qui doit être effectuée absolument au petit matin, le dimanche de Pâques, au lever du soleil ou pendant les dernières minutes avant l'aube. On dit que cette eau se puisait dans un ruisseau, une petite rivière. La plupart du temps, la coutume voulait que ce soit les enfants qui puisent cette eau, munis d'un récipient, de récipients spéciaux réservés à cet effet. La provision devait pouvoir tenir pendant toute une année. La provision devait pouvoir tenir pendant toute une année, je comprends pas.
Ils gardaient l'eau, genre?
Toute l'année. Puis vous autres la buviez.
C'est weird, ça, par exemple. Tu vois, nous autres, on n'était pas traditionnels à ce point-là, si réellement c'est ça, là.
On dit qu'il y a des propriétés à l'eau de Pâques. C'est réputé pour avoir des propriétés bénéfiques, voire magiques, Audrey. Cela peut s'expliquer par une certaine croyance chrétienne. D'après cette légende, l'année où Jésus est ressuscité, il s'est produit un phénomène bien autrement miraculeux. Pendant 8 jours consécutifs, le soleil ne s'est pas couché du tout. Les 2 premiers jours, il se tenait immobile au-dessus du levant. Les 3 jours suivants, au zénith, pendant 2 jours, encore, il descendit graduellement vers le couchant et ne disparut entièrement sous terre que le soir du 8e jour.
La religion, hein?
En Normandie, en Saxe, en Silésie, il y a des propriétés dermatologiques, nous dit-on, contre l'eczéma, l'acné, les maladies vénériennes et la lèpre.
Bon, mais vous le saurez.
j'ai peut-être ajouté quelque chose d'affaires. Au Québec et dans les régions nordiques de la France, il y avait aussi des effets sur la vision. On dit que c'était une précieuse lotion pour les yeux. L'autre Pâques devait aussi préserver de la diarrhée et guérir la fièvre. C'est assez particulier, ça.
Ben, c'est weird.
Ouais.
Je crois en plein d'affaires, mais j'irai pas jusqu'à dire que d'aller puiser l'eau d'une rivière à 4h30 le matin le dimanche de Pâques va changer toutes ces choses dans ma vie. Là.
Non, mais il y a des gens qui m'écrivent que ça leur rappelle des souvenirs. Avec ben leur famille, ils se levaient le dimanche.
C'est sûr.
Ouais. Aujourd'hui, moi, le dimanche, je me lève, mes gars sont déjà levés. Puis à matin, je me suis levé à la même heure qu'eux autres se lèvent la fin de semaine pour descendre dans la cave puis s'amuser.
C'est quoi vous faites à Pâques?
Et là, nous autres, c'est ouais. Du chocolat. Nous autres, on est vraiment...
Brunch chocolat?
Ouais, peut-être. Peut-être restaurant. Là, je les ai pas cette année à Pâques parce que leur mère m'a demandé des avoirs à Pâques. Il y a un gros déjeuner de prévu, mais c'est ça. On va manger au restaurant, puis on s'amuse, puis on s'échange les petits chocolats que j'ai achetés sous Jean Coutu. Là.
C'est le fun.
Ben oui, c'est le fun.
Disons, c'est tout le temps ça. Brunch avec petit mimosa. Puis là, il y a une affaire, par exemple, Yann. Puis si tu ne fais pas ça, je vais changer ta vie et les auditeurs soient bien à l'écoute, OK?
Tu vas changer ma vie.
Absolument.
Ah, d'ailleurs, tu as la chance d'acheter souvent.
Ben, c'est bon, ça.
Oui, je te dirais qu'à matin, il y a des auditeurs qui m'ont écrit. Ça a changé une partie de mon matin.
OK.
Mais peut-être que je la raconterai dans 6 mois.
Dans 6 ans, oui.
6 ans.
6 ans. vous prenez le matin de Pâques, vous faites des toasts, OK? Puis pas là, des affaires de blé entier. Là, on laisse ça de côté le matin de Pâques, OK? Là. Des toasts de bon vieux pain blanc, OK? Avec du beurre. Ben du beurre statos. Et là, les cocos de Pâques que tu as reçus ou les poules en chocolat, peu importe, ce que tu fais, c'est que tu les pètes.
Ouais.
Et tu mets petit morceau par petit morceau sur ta toast, puis tu manges tes bouchées au fur et à mesure avec le morceau de chocolat puis la toast au beurre. C'est une des meilleures affaires que tu vas manger de ta vie. Ça n'a rien à voir qu'une toast au Nutella. Là. Je veux dire, le mélange que ça fait, le chocolat qui fond à cause de la toast dans ta bouche, le croquant, le. Oh! Je vis pour Pâques juste pour ces moments-là. Parce que ça, non, ça tu peux pas le faire le reste de l'année. C'est all dimanche, puis t'en manges autant que tu veux. Là.
Hey, je te pose une dernière question, parce que je sais qu'on a une grosse émission aujourd'hui. On a un invité à qui on a énormément de questions à poser. Mais si t'avais de l'argent, Audrey, là, parce que je sais que t'es pauvre que le Christ.
Bref, oui.
Tu l'as redit ce matin. J'ai échappé mon portable. Je n'ai pas d'argent pour m'en racheter un autre.
Ouais.
Si t'avais... Je sais pas, moi, 10 millions dans ton compte en banque, puis on t'offrait la chance d'aller dans l'espace pendant 5 minutes. Tu y vas-tu?
Non.
Pourquoi?
Pourquoi j'y vais pas?
Ouais.
Parce que pour moi, 5 minutes vaut vraiment pas la ride, pour être très honnête. Je devrais penser à
c'est pas ça que
toutes
mes blondes m'ont dit. Mais 5 minutes, c'est quand même 5 minutes dans l'espace.
Bien, c'est 5 minutes dans l'espace, mais pour ce prix-là, il y a tellement d'affaires que je peux vivre à plus long terme.
Il y a des actrices et des chanteuses d'Hollywood qui décident d'embarquer dans la fameuse capsule Blue Origin qui va les amener dans l'espace. De mémoire, c'est à plus de 100 km de la Terre. Donc, techniquement, tu es au-dessus de la ligne de Kármán.
Mm-hmm.
Fait que tu vas avoir pendant quelques minutes de la pesanteur. Puis eux, c'est une expérience de vie qui se paie.
Oui.
Puis ça, ils font pas de recherche scientifique. Ils veulent... Ouais, c'est ça. Ils font pas de recherche scientifique. Ils voulaient juste l'essayer.
Ouais.
Et là, ils sont en train de devenir la risée de tous les artistes à Hollywood. Là.
Mais c'est parce que ça a comme été poussé d'une drôle de façon aussi. Là, les femmes dans l'espace, c'était comme si c'était quelque chose de miraculeux qui allait marquer l'histoire qu'on venait de vivre, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme un trip de cash, point barre.
Mais ça en est un.
Mais c'est un trip de cash. C'est comme on l'a brandé qui est pas...
Toutes les femmes qui ont critiqué ces femmes-là qui ont été dans l'espace, là, dans la fameuse capsule Blue Origin, là, toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui sont multimillionnaires et qui peuvent faire à peu près tout ce qu'elles désirent.
Ouais.
Je serais curieux de voir la grosseur de leur maison, combien de fois ils voyagent par année dans les avions et tout ça.
Ou le nombre de maisons qu'ils
ont. Mais là, sont tombés sur 3-4 femmes qui, visiblement, ne fait plus vraiment partie là, de la haute société Hollywood, puis ont décidé de taper dessus en disant ben, « on comprend pas pourquoi ils dépensent tout cet argent-là pour aller dans l'espace, ça sert absolument à rien. En plus, c'est une entreprise qui pollue comme pas possible, alors que ces gens-là font le tour de la planète dans le jet pour faire des spectacles de musique. Là.
Moi, honnêtement, ce jacassement-là inutile.
C'est juste parce que c'est des bonnes femmes?
Stars, pis non, pousse pas. Là.
Non.
Ça n'a pas rapport. Je n'ai vraiment aucun...
Es-tu sûr?
Je suis convaincue.
Parce que j'ai déjà été dans un salon de coiffure de femme, puis ça jase. Hein?
Je pense que... ben oui, ça jase. Les hommes aussi, en passant, t'es-tu déjà rentré chez un barbier?
On parle de la game de hockey ce soir.
Ben, vous parlez pas juste de la game de hockey, moi, vous dire. Il y a des conversations qui se passent là.
C'est vrai?
Ben oui, vous êtes jacasseux, arrête. Là.
Non, non, mais les filles sont plus jacasseuses. Ça... On dirait que milieu de filles, c'est un peu plus... pardonnez-moi l'expression, là, faites comme si c'est pas moi qui l'avais dit, c'est un peu plus bitch. Là.
Ah, ben...
Ça se bitch.
T'as
pour avoir travaillé longtemps avec des filles, là, les filles nous disaient tout le temps on préfère travailler avec une gang de gars, c'est moins compliqué.
Ben oui,
on se tape sa gueule, après ça, on passe à d'autres choses.
Non, mais le pire, c'est que t'as vraiment pas tort. Dans la mesure où moi, je me suis toujours tenue plus avec des gars pour ça, les gros cercles de femmes qui finissent. C'était pas du sport, là.
Ouais, qu'est-ce qu'ils font, ces gros cercles de femmes-là?
Ben, c'était pas du sport. Je vais m'arrêter là. Mais c'est un mythe qui existe. Pas un mythe, mais c'est un. Comment t'appelles ça, là? Stéréotype qui existe pour une raison. Merci pour ton aide. C'est un stéréotype qui existe pour une raison.
Moi, j'étais là. J'étais un grand cruciverbiste. Hein, oui. Je te regardais dans mes mots à choisir.
Ben, oui,
lequel je pourrais donner au Audrey.
Fait que je pense que c'est un stéréotype qui existe pour une raison. Je pense qu'on n'est plus totalement là. Il y a peut-être une question de maturité aussi.
Ouais, moi, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui n'ont jamais embarqué là-dedans.
Ouais.
Mais il y a des filles qui aiment bien ça, bitcher, là.
Oui.
C'est un milieu assez particulier, les filles.
Oui, mais je pense que c'est pas juste les filles. Là-dessus, je tenais mon point. Là. Je suis désolée. Je connais beaucoup d'hommes qui ont la langue sale.
Fait que c'est ça. Toi, t'en aurais-tu... Tu l'aurais pas fait, ce fameux voyage-là dans l'espace.
Tu l'aurais fait?
Moi, sérieux, là, tu me donnes $1 milliard, c'est la première des choses. Ben, m'essayer de faire la paix sur la Terre, puis enrayer la pauvreté, mais par la suite, c'est sûr, je dégage.
Mais t'es
J'embarque là-dedans, on s'en va là.
Mais t'es un tripeux.
Ben oui.
Mais c'est parce que tu vois rien, là.
Si on me propose, « Hey, Yann, on aimerait ça que tu sois le premier homme sur Mars, je dégage, là. »
C'est juste pour dire que
oui,
tu l'as fait.
Oui, mais papa, t'es notre père, c'est pas grave, je dégage.
Mais écoute. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, puis avec les affaires que tu peux te mettre là, d'en face, là, les Oculus, là, puis toutes les réalités virtuelles, là, t'es capable de voir de quoi ça a l'air l'espace, entre guillemets, là. Moi, j'ai été dans un vaisseau spatial avec Oculus. Là, okay? Je me demande ce que 5 minutes à monter en haut puis à regarder par le hublot, le noir, va m'apporter, à part dire que je l'ai faite.
Ouais. Moi, une des personnes que j'ai appréciées le plus au monde en entrevue, là, c'est le colonel Chris Hadfield.
Ah oui.
C'est un Canadien, c'est un gars qui est super. Je l'ai eu quelques fois en entrevue. Je pense que je l'ai eu sur les ondes de Boulevard.
Absolument.
Deux fois, dont une dans Marceau Soir. Puis ce gars-là, quand il m'a raconté sa sortie dans l'espace, là, c'est juste hallucinant.
Oui, mais lui, c'est son métier. Il voit plus que... Tu sais, il est là pour rester. Il n'est pas là 5 minutes, aller-retour.
Ouais.
C'est différent comme trip. Si tu me dis, veux-tu aller sur la Lune? Ah ben là, on jase, là. Oui, je veux aller sur la Lune. Mais le trip que ces femmes-là ont fait de 5 minutes dans l'espace pour payer 10 millions, non, ça ne m'intéresse pas. C'est-tu clair?
Ben, c'est très clair.
Parfait.
Non, ça m'intéresse pas.
Je veux dire qu'on se comprenne.
OK. Hey.
88-971-102, vous le feriez-vous? Tu sais, moi, peut-être je suis dans le champ, là.
Ben, je veux dire, si c'est pas ton bag à toi, là, si toi, ton gros trip, c'est de faire le tour du monde en voilier, moi, je vais dire, ben, vas-y.
Tu sais, voir autre chose que le noir, là.
Ouais, mais il y a d'autres choses à voir, tu sais. T'es en haut, tu regardes la Terre en bas, puis tu dis, il y a très peu de gens qui ont réussi à monter jusqu'à cette hauteur-là. Là.
Mais c'est juste pour pouvoir te vanter, finalement.
Non, c'est pour toi. C'est le bien-être que ça va te causer. Là. C'est la plénitude en haut. Là. Tu sens plus cette apesanteur-là. Tu sais, t'as plus rien. Tu peux aller où tu veux. Tu peux voler comme Superman, comme dans son film. Là. T'es dans ta capsule, puis tu te promènes.
Pendant 3 minutes.
Hallucinant. Pendant 4 minutes.
Avec 4 autres personnes qui jacassent parce qu'elles sont donc bien contentes d'être là.
Ah,
t'as pas la paix intérieure.
Tu voulais pas être avec les filles, parce que les filles, ça bitch.
C'est
un
pas
peu.
Pour ça. Ah, Yannick, on s'en va nulle part.
On l'a eu. Bon mercredi. Frédéric Keck. Qui est Frédéric Keck?
Frédéric Keck, c'est le directeur adjoint, en fait, partenariat et itinérance au CIUS de la capitale nationale. Puis on jase avec lui ce matin parce qu'on vous en a parlé un peu hier, mais il y a un dénombrement qui se faisait la nuit dernière pour, bon, compter le nombre de personnes en situation d'itinérance dans la capitale nationale. Jaser avec ces gens-là, c'est quoi les besoins? Pourquoi se sont ramassés dans la rue? On fait ça de temps à autre. La dernière fois à Québec, c'était en 2022. Puis on va parler de la situation de l'itinérance, donc. Vous comprendrez, dans la région de la capitale nationale puis à Québec, ici, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça a augmenté? Je pense qu'on est déjà capable de dire que oui.
Ouais.
Mais de savoir qu'est-ce qui cause ça, parce que ces gens-là ont jasé hier avec les personnes en situation d'itinérance. Puis Frédéric Keck, il était organisateur du dénombrement. Il a géré les équipes de bénévoles aussi sur le terrain hier, puis il était lui-même, là.
Très hâte de lui jaser juste avant de partir en musique avec Sam and the Terrible News, avec la toune Le Stéréo. Juste vous mentionner que la Banque du Canada a décidé d'opter pour le statu quo. Donc aujourd'hui, il y a de ça quelques minutes, on a décidé de maintenir le taux directeur à 2,75 après 7 baisses consécutives. C'est à peu près 60% des experts là, qui mentionnaient que ça allait rester statu quo, contre un 40% qui disait non, ça va continuer de descendre. Donc, c'est la majorité qui l'ont emporté de ce que je comprends. Et autre chose à surveiller, le Canadien de Montréal qui va tenter d'être dans les séries ce soir contre les Hurricanes de la Caroline. Ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir un petit break de la part des Hurricanes de la Caroline parce qu'il y a quelques bons joueurs qui vont être mis au repos. Puis on a ramené des joueurs de la Ligue américaine. Quoi qu'on n'a pas été capable de battre Chicago en fin de semaine, là, mais les Hurricanes de la Caroline vont donner un petit break aux Canadiens. Fait qu'espérons que les Canadiens gagnent ça ce soir.
Ah, ça va être excitant. Moi, je suis une fan de hockey partiel. Quand il y a des événements puis des gros buzz, puis là, je ressens le buzz, je suis excité. Je pense qu'on va être une coupe devant notre TV.
Tant qu'il y a de l'alcool. Sam and the Terrible News, c'est maintenant. 10h28, 418-971-1021, 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Si vous avez des commentaires ou encore des suggestions, c'est par texto. Audrey.
Il y a un léger ralentissement si vous êtes en ce moment sur Laurentienne, direction sud. Vous allez chercher la bretelle pour la capitale, direction ouest. Puis ça s'étire à peu près jusqu'à Robert Bourassa, ce ralentissement-là, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 971-1021, texto.
C'est 2 degrés sur Québec, c'est pluvieux et ce sera ça toute la journée et toute la soirée, avec des rafales peut-être ce soir à 40 km/h. Avec le refroidissement éolien, ça pourrait être une température ressentie de moins 8. Pour ce qui est de demain, jeudi, jour de paye, ce sera un ciel dégagé, maximum de 7. Et vendredi, plein soleil. Donc, vous profiterez du début de votre congé de Pâques avec un maximum de 12 vendredi. Puis samedi, je ne vous en parle pas encore. Ça a le temps de changer.
Oui, bien, on vit dans le déni à long terme. On essaie de se faire du bien un peu. Là.
Exactement, exactement. C'était un plaisir de l'accueillir en studio. Je sais qu'il y a eu une grosse nuit, mais il est présent avec nous autres. C'est un homme qui a fait un dénombrement cette nuit, qui est responsable de la gestion de l'équipe de bénévoles sur le terrain, qui a fait en sorte qu'on a décidé de dénombrer les gens qui sont sans-abri à l'extérieur. Il est avec nous. Son nom, c'est Frédéric Keck, qui est directeur adjoint partenariat et itinérance au CIUS de la Capitale-Nationale. Monsieur Keck, bonjour.
Oui, bonjour.
J'ai pas massacré votre nom de famille?
Non, c'était pas fait comme ça.
Tout a bien été. Comment ça s'est passé cette nuit avec les sans-abri? Comment avoir eu idée de dénombrer ces sans-abri-là dans la grande région de Québec?
On a eu une super belle soirée quand même hier soir, malgré la pluie, là, ouais. On va se le dire. Là, c'était pas, on avait eu une belle fin de semaine. Là, hier, on avait un petit peu plus de pluie. Évidemment, un dénombrement de même, ça se fait pas tout seul. Là, ça s'est fait avec... On avait plus qu'une centaine de bénévoles qui étaient avec nous autres là, pour arpenter les rues du centre-ville puis aller sonder les personnes là, dans les différents organismes de la région.
Principalement, nos sans-abri sont au centre-ville de Québec. Est-ce que vous avez remarqué par les années passées que de plus en plus, il y en a qui transitent vers les banlieues?
Ah, bien, tout à fait. Le phénomène de l'itinérance, c'est plus réservé au centre-ville. Là. Ça, c'est clair. Dans les travaux qu'on fait, puis les échanges qu'on a avec les organismes, les partenaires, c'est vraiment sur tout le territoire. Quand je dis tout le territoire, là, c'est capitale nationale. Ça veut dire Portneuf, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Bien, en fait, tu sais, on le sait, là, il y a une précarité au niveau du logement, des taux d'inoccupation qui sont comme. Bien, ça se ressent un peu partout. Puis il y a plus de monde qui vit de l'instabilité résidentielle, plus de monde à risque. Puis bien forcément, il y a plus de monde qui se retrouve à la rue puis qui essaie de trouver des modes alternatifs aussi.
Pour compter tout ce monde-là, ça devait être assez compliqué de les trouver parce qu'il y a une itinérance qui est visible et il y a une itinérance qui est carrément invisible. Il y en a qui réussissent à aller se faire des campements dans le bois puis ils essaient tant bien que mal de s'organiser. Parfois même avec des résultats que le campement passe au feu parce qu'ils essaient de se chauffer l'hiver puis ça fonctionne pas toujours comme ils veulent. Est-ce que c'était compliqué de les trouver cette nuit? Ou vous aviez déjà des endroits où vous saviez qu'ils étaient là puis ils pouvaient passer la nuit là?
C'est sûr, le défi là, qu'on avait avec l'exercice d'hier, c'est que le but, c'était pas de dénombrer tous les itinérants qui sont sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. D'un point de vue logistique, là, c'est impossible. Quasiment impossible. Okay. Donc, on s'est concentré sur les quartiers, les rues, où on sait qu'il y a plus de présence. Puis l'objectif, bien, vous comprenez, c'est... on parle d'un chiffre, d'une énumération, là, beaucoup, mais en réalité, cet exercice-là, c'est un sondage qu'on passe auprès des gens qui sont sur la rue puis dans les organismes. Fait que c'est un questionnaire, puis on prend le temps avec eux autres. Puis c'est pas tout le monde qui veut toujours répondre. Fait que ça nous donne... l'énumération, là, l'objectif, c'est de donner un ordre de grandeur, mieux comprendre les gens qui sont à la rue, c'est quoi leur réalité. Puis c'est que surtout, quand on répète l'exercice, là, c'est le troisième dénombrement là, qu'on a fait dans notre région. Fait que ben, quand on répète l'exercice, ben, ça nous permet de comparer d'une fois à l'autre. Puis là, à ce moment-là, on est capable de tirer des conclusions sur « Ah, OK, oui, il y a une progression du phénomène ou une variation là, dans le profil des personnes. »
Quel type de questions il y a justement dans ce questionnaire-là que vous, vous présentez aux personnes en situation d'itinérance?
Bien, c'est surtout sur trois fronts. Là. Il y a le profil socio-démographique, là, si on veut, là, tout ce qui est âge, origine et tout ça. Il y a... au niveau du parcours des personnes. D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils ont eu des périodes d'institutionnalisation ou pas? C'est quoi le point de rupture qui les a amenés à la rue? Puis l'autre élément, souvent, c'est d'aller vers bien, c'est quoi l'offre de service qu'ils considèrent qu'ils ont le plus de besoins puis pour lequel ils ont des difficultés à avoir accès. Donc, vous voyez un peu. Ça nous permet de voir le profil des personnes, adapter l'offre de service, voir les points de bascule. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire de ce bord-là? Puis dans l'offre de service qui est disponible, y a-t-il des trucs qu'on peut bouger de ce bord-là?
C'était quoi le point de bascule, je veux dire, généralisé que vous avez observé? Parce que là, on entend toutes sortes d'affaires. Là, on entend les logements, la santé mentale, les sous. Y a-t-il quelque chose qui revenait beaucoup cette nuit?
Bien là, c'est sûr que le défi, c'est qu'on n'a pas les résultats de la nuit dernière. C'est un exercice qui est fait partout au Québec en simultané. Nous, on envoie toutes ces données-là au ministère. Ils travaillent ça avec les NSPQ. Puis eux autres vont nous retraiter ces données-là, ce qui demande un certain délai. Moi, ce que je peux vous parler, par exemple, c'est les données qu'on a eues de 2022.
Ben
ça
monte
déjà un petit moment, mais c'est déjà, ça donne déjà une perspective un peu dans quoi qu'on est. Dans les points de bascule là, qui mènent à la rue, à peu près ex aequo, il y avait les défis associés à la consommation, puis les expulsions. Ce qu'on voit aussi qui ressortait très, très fort, c'est les conflits. Donc, tout ce qui est séparation, conflits familiaux, conflits avec le voisinage, c'est des éléments là, qui étaient à l'origine là, souvent du point de rupture que les personnes identifiaient.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont issus de la désince qui sont dans nos rues?
Des institutionnalisations
qu'on a amorcées, je pense que c'était fin 70.
Oui, puis c'est des années 90, là, dans le fond, là, que ça a eu son pic.
Ouais.
Non, je vous dirais, parce que les personnes issues de la désince, pour la majorité, on était dans les années 90, fait que forcément, là, on remonte à il y a 30-35 ans.
Parce que quand j'étais jeune, nous autres, on voyait beaucoup d'orphelins de Duplessis, là, qui étaient à Robert-Giffard, qui avaient des permissions de sortie, puis de temps en temps, ils oubliaient de rentrer, puis là, ils restaient pendant quelques jours dans la rue. Moi, c'est ce que je voyais dans les années 80, mais ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là sont soit dans des foyers de personnes âgées ou des CHSLD, ou sont tout simplement décédés parce que fait en sorte qu'un jour, il faut que tu partes.
Mais ce qui n'empêche pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de gens qui ont des problèmes de santé mentale à la rue. Je veux dire, il y a une nuance là, quand même qui est importante de ce côté-là. L'organisation de services aussi est différente. La désince, on a souvent vu des contre-coups, mais il y avait quand même quelque chose de bien logique là-dedans. Des fois, on enfermait des gens à long terme alors qu'ils avaient une capacité de fonctionner dans la société.
Ouais.
C'est juste qu'on ne savait pas trop comment les intégrer. Bon, donc là, le virage... Il a été un peu délicat dans ces années-là, je pense qu'on peut dire ça de même. Mais là, maintenant, on est ailleurs là, de ce côté-là. On a des équipes de suivi intensif dans la communauté qui se rendent dans les milieux à domicile plusieurs fois par semaine, si nécessaire, pour aider les gens à bien fonctionner de ce côté-là. Puis si jamais la situation se dégrade par rapport à leur état de santé mentale, d'habitude, on est capable de le capter en amont. Là, le défi qu'on a souvent, il faut que les gens aient le goût de rester en lien avec nous autres puis qu'ils souhaitent un suivi de notre part. Souvent, par contre, peut-être juste si vous me permettez rapidement, là, on a tendance à avoir l'image, puis c'est une image quand même qui colle, là, la désince, mais pas juste ça, là, aussi.
C'est l'image chronique. C'est des choses qui ont marqué notre enfance et notre adolescence. Fait que nécessairement, on apprend des expériences que nous, on a étant jeunes. Fait que quand on y réfléchit plus tard, on se dit, t'as pas, c'est-tu des gens qui seraient supposés être en institut, puis être soignés, puis être traités, puis que finalement, on laisse à la rue comme ça? Ce que vous me dites, c'est pas du tout.
Bien, c'est ça. Puis, tu sais, on a souvent l'image là, de la personne qui se parle un peu tout seul, qui a des problèmes de consommation au long cours, puis qui est un peu désorganisé.
C'est
tout
le stéréotype.
Ça. C'est un peu le stéréotype. Ça existe. Là, hein, ça, c'est sûr que ça existe. Par contre, ce que le dénombrement nous permet de faire, ce qu'on a comme écho, là, c'est que c'est complètement éclaté maintenant, là, le profil des personnes qui sont en situation d'itinérance. Puis ça, mais ça reste comme l'image que les gens ont en tête, mais c'est extrêmement plus varié que ça, là. Donc, tu sais, on a beaucoup des situations des jeunes. Vous avez probablement entendu parler des jeunes dans le passage à la vie adulte, là, entre autres les jeunes qui sortent de centre jeunesse et tout ça. Ouais. Il y a vraiment des gros enjeux de ce côté-là. Personnes âgées, vous seriez surpris, en fait, du nombre de personnes âgées qui ont toujours été en logement, ils ont toujours une belle stabilité. Puis là, bien, tout d'un coup, bien, soit ils se font expulser, soit ils ont une période d'hospitalisation ou autre. Puis là, hop, ils arrivent pour rentrer dans leur logement, puis OK, il faut qu'ils se relocalisent, qu'ils aillent ailleurs. Puis là, ils sont... leurs revenus ne leur permettent plus nécessairement de se reloger de façon adéquate. Puis là, ben, ils se retrouvent dans des situations vraiment précaires, puis un peu démunis aussi.
Et ça, par rapport à ça. Là, j'ai toujours pensé que c'était la curatelle publique qui s'occupait de ces gens-là. À partir du moment où tu n'es plus fonctionnel, tu n'es plus capable d'avoir un logement.
Qu'on ne te laissait pas tomber.
À mes yeux, à moi, je pensais que c'était le gouvernement qui nous prenait en charge avec la curatelle publique, puis il nous procurait un logement supervisé. Puis après ça, ben, si on pouvait aller dans un CHSLD, exemple, ou un foyer de personnes âgées, on y allait avec l'aide de la curatelle publique. C'est pas ça.
Bien, en fait, c'est beaucoup lié à l'inaptitude. Il faut se rendre assez loin hein, pour être déclaré inapte. Là,
Bon, pas tant. Des fois, Audrey me regarde d'une façon à ce qu'elle pourrait me renvoyer là.
Non, c'est
J'y
ça.
J'y pense deux, trois fois semaine.
Puis, des fois, ben, tu sais, on a tendance à associer des comportements ben, en disant ben, ça n'a pas de bon sens, vous voyez bien. Mais en même temps, tu sais, des fois, c'est des comportements qui sont associés à une habitude de consommation, à une situation X là, par rapport à un épisode de santé mentale ou autre, ou par rapport à un épisode de désorganisation là, maintenant, mais ça ne rend pas nécessairement une personne inapte, ça.
Okay.
Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on l'accompagne dans cet épisode-là pour l'aider à se stabiliser au mieux.
Mais quelles sont les ressources pour un homme de 70 ans, exemple, qui se fait évincer de son logement, puis il va où? Il va où, ce gars-là, pour demander de l'aide? Parce que là, actuellement, tu n'es pas capable de trouver un genre de... Une chambre, je pense que c'est autour de 1 000-1 200 $.
Ça va terriblement... Bien là, écoutez, moi, je suis content que vous en parlez.
Chèque d'aide sociale
le plus gros
est
enjeu.
Autour de 800 $. Là. Des fois, c'est entre 600 et 800
829 pour 829. Une personne seule.
Donc, la personne ne peut pas se loger. Elle fait quoi, cette personne-là de 70 ans? Ben là, elle a sa petite pension, mais elle va où? Elle va demander à qui de l'aide?
Mais là, je pense que vous avez mis exact le doigt sur la situation dans laquelle on se retrouve maintenant. Tu sais, on parle d'une progression du phénomène de l'itinérance.
Ouais.
Ben, l'enjeu, il est un peu là. C'est la capacité de se loger qui a complètement changé là, dans les 20 dernières années. Moi, ça fait bientôt 20 ans là, que je travaille là, justement autour de l'itinérance, là, dans différentes facettes. Puis il y a 20 ans, il y en avait des logements. Là. Dans le fond, ce qu'on dénonçait à l'époque, c'était le logement, les logements insalubres. On parlait de logements de qualité, abordables et de qualité.
Oui.
Là, on souhaite encore de qualité, là, mais juste abordable, ce serait déjà bien.
Il y en a qui restent dans les logements insalubres parce qu'ils se disent « je ne trouverai rien d'autre ».
Mais c'est que même les logements insalubres coûtent une fortune maintenant, alors qu'à l'époque, ben, il y avait des logements. Puis, tu sais, c'est qu'il y avait aussi, dans les stratégies d'intervention, c'était aussi de responsabiliser les gens. Puis dire ben « là, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne payes pas ton loyer, tu vas le perdre ». Mais on savait qu'il y avait d'autres loyers ailleurs. Puis ultimement, ben, on pouvait diriger les gens vers l'Aube-Rivière ou vers d'autres ressources d'hébergement. Puis, ben, ils étaient toujours en mesure de les accueillir, de les accompagner puis de les aider à rebondir par rapport à la situation.
Mais il y en a trop, là.
Ben oui, là, c'est ça. Là, la situation dans laquelle on se retrouve actuellement, c'est que nos ressources communautaires là, de la région sont surchargées, sont sursollicitées par tout un paquet de demandes puis plein de nouveaux visages qui arrivent, des gens qui ont toujours été en logement puis qui disent « là, je suis mal pris, mais là, ben, je viens dans un refuge parce que c'est ça que je comprends ».
Qu'il faudrait que je fasse
dans le contexte-là. Puis là, ils sont surpris d'apprendre que, ben là, à soir, c'est peut-être plein. Ça fait que tu vas aller au répit Basseville, passer la nuit sur une chaise, tu sais. Fait que c'est
cruel pour ces
gens-là. C'est les réalités dans lesquelles on peut se retrouver actuellement. Donc, tu sais, puis c'est quand on parle d'urgence d'agir autour de l'itinérance, mais c'est un peu là, ce qu'on a en tête, là, c'est que ces situations-là, on essaye de les capter vite. Puis ben, la stratégie pour répondre à ça, là, c'est vraiment sur deux fronts. Là. Nous autres, là, ça se dégage de façon très, très claire. Là. C'est-à-dire, ben, comment est-ce qu'on fait pour, les gens qui sont à la rue présentement, là, essayer de les aider le plus possible à se restabiliser en logement, trouver des solutions, travailler sur leur stabilité résidentielle. Vraiment, mais ça prend des moyens, ça prend des ressources, puis ça prend surtout des logements adaptés qui vont être tolérants, puis qui vont nous permettre de faire des transitions.
Parce qu'on entend des fois que, puis encore là, c'est un stéréotype, mais des fois, on entend que les gens, malheureusement, puis là, on est dans une pente fatale dans ce que je vais dire, là, mais des gens qui, bon, tombent à la rue, sont pas bien, il fait fret, sont pas à l'aise, consomment pour essayer d'oublier. Là, c'est un cercle vicieux, là, parce c'est que là, spirale, consommation, problème de santé mentale, puis qu'après ça, ben, ces gens-là, c'est parce que c'est vraiment dur de les réintégrer dans la société, parce que des fois, ils veulent même pas. On entend souvent qu'il y a des gens qui veulent rester dans la rue, qui savent tellement pas par où commencer, qui préfèrent finir là, ce qui est vraiment, ce qui est triste, là. Mais je me suis toujours demandé si réellement on était capable de réchapper des gens plus que d'en échapper.
Vraiment. Tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir aussi des gens qui ont des séjours prolongés à la vie, à la rue, là, c'est leur je sais pas comment vous le nommez, là, mais la résilience peut-être, là, ou leur capacité puis la volonté vraiment de continuer à travers tout ça. Là.
Persévérance.
Parce que de la persévérance, parce que vous n'avez pas idée à quel point, là, à chaque jour, là, d'avoir à penser comment je vais faire pour me nourrir, où est-ce que je vais dormir à soir, comment c'est épuisant.
C'est brûlant, mais
tout à fait. Puis ben là, vous l'avez bien nommé aussi, c'est l'idée qu'un passage à la rue prolongé, là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut agir vite. Là. Je parlais de deux facettes. Là. Oui, les gens à la rue, comment on les aide, mais comment est-ce qu'on détecte vite les gens qui sont sur le bord de passer à la rue, là, avant qu'on les envoie vers l'Aubrivière ou s'ils viennent juste d'arriver, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour leur offrir des solutions rapides? Parce qu'on le sait que plus longtemps ils vont rester à la rue, plus leurs enjeux liés à leur état de santé physique, l'état de santé mentale, puis leurs habitudes de consommation, là, tout ça va se détériorer.
Donc, l'importance de travailler en amont.
L'importance de travailler en amont, puis on l'oublie, ça, souvent. On se concentre souvent sur l'urgence, les gens qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'on va faire pour eux autres.
Bien, c'est souvent plus payant, là, je ne veux pas faire de politique avec vous, mais c'est souvent plus payant pour les politiciens de réagir rapidement à une situation tragique qui a été parlée dans les médias plutôt que de travailler en amont où ils passeront jamais dans le journal.
C'est ça, mais là, le défi qu'on a, c'est que puis les données sont claires là, là-dessus, justement via les derniers dénombrements qu'on a faits. C'est qu'on a beau sortir des gens de la rue, puis on a investi comme jamais dans l'accompagnement des personnes là, pour intervenir auprès des personnes, là, juste dans l'action communautaire. Là, puis, tu sais, le but, c'est pas de dire qu'il y a trop d'argent de ce côté-là, loin de là, mais on a passé entre 2015 puis 2025. Là, les budgets là, qu'on gérait en 2015 là, pour soutenir le milieu communautaire dans la région, c'était 2,3 millions. En 2025, on est à 19,4 millions. Hmm. On n'a pas arrêté d'investir là, dans les dernières années pour développer des services.
Puis comment on pourrait essayer d'agir avant que ça se détériore? T'sais, est-ce que c'est d'avoir un nouvel organisme qui peut aider, qui est une porte d'entrée pour les gens qui sentent qu'ils vont l'échapper? Comment vous voyez ça? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on décrit les problèmes, mais on n'a pas de solution.
Bien, c'est ça. Là, tu sais, dans ce qu'on est en train d'instaurer, là, c'est-à-dire, bien, dans les gens qui viennent chez nous, qui sont en suivi, là, tu sais, puis le CIUS, c'est une grosse organisation, là, de santé et tout ça, bien, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de détecter plus rapidement? Puis, tu sais, il y a des équipes, là, on le sait, là, il y a des secteurs, là, ou d'activités où on le sait que les personnes sont plus vulnérables. Donc, puis on parlait de santé mentale, de dépendance, oui, mais, tu sais, personnes vieillissantes, les jeunes passants, tu sais, tout ça, là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les questionner davantage, là, sur, tu sais, toi, là, te loger, là, ça va comment, là, ces temps-ci, là? Ton logement, c'est-tu stable? T'as-tu des... Tu sais, t'arrives-tu à payer ton logement? Tu sais, c'est pas toujours un réflexe clinique qu'on a. Je veux dire, quand on est là pour un traitement ou un... Mais commencer à poser ces questions-là, ça fait en sorte qu'on est capable de détecter plus rapidement. Puis dans ce qu'on a mis en place récemment, là, dans les dernières années, on a créé une petite équipe de stabilité résidentielle. Leur job, eux autres, là, c'est de faire le pont entre le milieu de la santé puis le milieu de l'habitation. Puis bien, le milieu de la santé, c'est gros, c'est complexe, mais vous seriez surpris, le milieu de l'habitation, là, c'est tout un monde aussi. Donc, d'apprendre à faire le pont entre ces mondes-là, ces deux mondes-là. Puis si on a des intervenants qui disent « Hey, moi, j'ai quelqu'un qui arrête pas de me parler de sa situation résidentielle, il sait pas quoi faire. Puis moi, ben écoute, je ne sais pas comment gérer ça. Puis là, il dit qu'il va perdre son logement social, puis tout ça. » Pas de problème, tu appelles Suzanne dans notre équipe, puis Suzanne, elle va te donner les cues, puis elle va faire les ponts. Avec
ça, je pense par le CLSC.
Bien là, ça, on le détecte direct à partir des équipes. Donc, nous, on y va de façon proactive au niveau des équipes. Mais mettons là, que c'est une personne dans la communauté qui n'a pas de suivi, qui, là, présentement, est en train de perdre son logement, ne sait pas trop comment s'orienter dans tout ça. Bien, il y a les portes d'entrée standards du réseau. Là, 811, CLSC, il y a encore moyen d'avoir des services de ce côté-là. Okay. Puis de l'autre bord, du côté du logement, il y a les équipes SAL, tu sais, qui ont été mises en place. Soutien à l'accès au logement. En tout cas, je ne serais pas capable de vous dire.
Je ne veux pas être défaitiste, M. Keck, mais s'il n'y a pas de logement puis si les sous ne sont pas là,
Oui, mais là, c'est ça.
Il se passe quoi?
Là, la question, c'est qu'il y en a du logement quand même, mais là, c'est que le marché se rétrécit. Hein? Donc, on parlait de 0,8% d'inoccupation pour le secteur de Québec. La réalité, là, on parlait de logement en dessous de 1 000 $. On est nettement en dessous du 0,8%. 0,8%, là, ça, c'est tous les logements confondus. Donc là, ce que ça nous prend, c'est du logement qui est réellement abordable, puis on faisait le parallèle tantôt avec l'aide sociale. C'est vraiment dans cette perspective-là aussi. Les stratégies qui sont en train de se développer, c'est de dire, bien, OK, c'est qui nos populations les plus vulnérables, puis comment est-ce qu'eux autres, on peut peut-être les favoriser dans l'accès au logement? Parce que là, pour l'instant, là, c'est toujours les derniers de liste. Donc, tu sais, souvent, là, on y va un peu par attrition. Là, puis là, bien, c'est à qui le tour là, dans tous ceux qui nous ont fait des demandes pour du logement social ou autre. Mais là, c'est-à-dire, si on a des populations qui sont vraiment plus vulnérables ou si on a du monde qui sont à la rue qu'on pourrait restabiliser rapidement, bien, est-ce qu'on est capable d'avoir un mécanisme là, pour favoriser ces gens-là pour un accès rapide à un logement? Puis les autres qui sont sur le bord, là, bien, comment est-ce qu'on peut travailler différemment dans cette perspective-là.
Je vais vous poser la question, M. Keck, parce que ça arrive une couple de fois quand je parle d'itinérance avec Denis Gravel ici à la station sur l'heure du midi. Je dis toujours, tu sais, Robert Chouard, il y a déjà eu des milliers de personnes qui étaient à l'intérieur de cet édifice-là. On ne pourrait pas faire un service d'hôtellerie avec tous les services qu'il peut y avoir d'aide psychologique, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des infirmières en place pour traiter les petits bobos. On ne pourrait pas rouvrir ça, un service d'hôtellerie, un peu comme l'Armée du Salut fait, là?
Bien, en fait...
C'est tellement une grosse bâtisse, je ne suis pas sûr que c'est utilisé à 100%.
Mais ça a été beaucoup. C'est encore un hôpital psychiatrique. Il y a encore aussi. Maintenant, il y a une grande partie des locaux qui ont été convertis en bureaux. Là. Donc, avant, on louait des espaces un peu partout.
Ouais.
Donc là, il y a vraiment une grosse concentration de notre service là, qui ont été ramenés là, vers l'Institut. Puis, comme on disait, pas juste des services en santé mentale. Maintenant, l'Institut, c'est comme un point de service du CIUSSS.
Ouais.
Donc, vraiment, sous plusieurs facettes, là, il y a plein de services que vous pouvez aller chercher là. Même si ce n'est pas en santé mentale. Fait que l'Institut, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais il y en a d'autres, par exemple. Vous parliez de l'Armée du Salut.
Oui.
Mais c'est drôle, hein? Ils ont fermé le bâtiment du 14 Côte du Palais.
Exact.
Je sais pas si vous vous rappelez de ça pendant la pandémie. C'est un bâtiment qu'on a racheté, le CIUSSS, puis qu'on est en train de rénover maintenant.
Formidable.
Justement pour développer des services dans un milieu qui est déjà connu des gens de la rue. Là. C'est sûr que ça a fermé pendant une couple d'années le temps des travaux, mais qu'on va réouvrir vraiment dans cette perspective-là. Pour de l'hébergement, puis ce qu'on souhaite, c'est vraiment axer davantage là, sur l'hébergement lié à la dépendance. Autre chose, bien, tu sais, les RPA, les résidences pour personnes aînées, il y en a quand
autonome,
même plusieurs qui ont fermé dans les dernières années. C'est des belles infrastructures, ça aussi, qui sont disponibles. Là, on essaie de réfléchir différemment. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour mieux accommoder des personnes qui sont plus vulnérables, qui ont peut-être besoin, justement, qui ont peut-être eu un séjour prolongé à la rue, puis que là, ils vont avoir besoin d'un marchepied peut-être plus prolongé avant de pouvoir retourner dans un logement de façon complètement autonome pour la suite.
Je vous lis, M. Keck, un texto qui est entré qui malheureusement représente la pensée de beaucoup de propriétaires. Là. Il dit « Être propriétaire avec le peu de recours qu'ils ont en cas de vandalisme, de défaut de paiement, jamais j'accepterai d'itinérant dans mes blocs par peur que ça devienne une piquerie. Pardon mon manque de compassion, mais je suis plus cartésienne puis c'est pas quelque chose que je serais capable d'endurer. Je me dis, il n'y aurait pas possibilité d'avoir une aide aux propriétaires qui accepteraient justement d'aider ces gens-là qui ont peu de moyens en cas justement que ça vire mal ou d'avoir un montant qui est dédié pour les gens qui vont vouloir, je veux dire, aider la cause, on se comprend. Mm-hmm.
Hein? Mais en fait, il existe tout un programme autour de ça. Donc, qui s'appelle le PSL, là, c'est le programme de soutien au loyer, qui fait en sorte qu'un individu, là, moi, Frédéric, là, qui me présente puis qui demande d'avoir accès à une subvention au loyer, bien, je peux aller, oui, dans un logement social à quelque part, une coop, un HLM, mais une des alternatives qui peut m'être proposée, c'est de dire, bien, on pourrait subventionner votre loyer, mais dans un milieu privé. Fait que trouver un appartement qui va correspondre aux règles, tu sais, du programme, puis à partir de là, on va subventionner votre loyer à même ce loyer-là. Puis c'est toujours le même enjeu de défavorisation qui fait en sorte de prioriser. Donc, c'est Puis il y a plein d'avantages à ça, avantages et inconvénients, mais dans les avantages, c'est qu'on évite de ghettoiser, on évite de... Puis là, bien, c'est vraiment partout sur le territoire. Puis là, à ce moment-là, bien, il y a comme toute une structure qui vient en arrière aussi, parce que le propriétaire, il n'est pas seul avec la personne qui loge, mais il y a l'OMH qui est dans le dossier aussi. Puis souvent, nous, le CIUS, on va être là aussi, ou sinon, on va avoir un organisme communautaire qui va être dans le dossier aussi. Puis si jamais il y a des bris, si jamais il y a des situations problématiques, bien là, on est là avec le propriétaire pour trouver des solutions.
Ouais.
C'est un programme qui est... un peu méconnu, mais en même temps, qui marche super bien. Puis dans la région de Québec, on est assez fort là, dans la manière de déployer ça. Donc, pour des propriétaires privés, même, bien, des fois, ça peut être une stratégie qui fait comme, ah, ben OK, normalement, si, être tout seul là-dedans, je ne serais pas prêt à prendre ce risque-là. Mais sachant que...
Ben, c'est intéressant, je connaissais
pas. Qu'il y a d'autres partenaires qui peuvent s'impliquer avec moi.
Mais ça
là, tout d'un coup, ça devient un peu plus raisonnable.
Oui, mais ça prend, j'imagine, un locataire avec un futur locataire avec un profil de travailleur. Tu sais, un gars qui veut se reprendre en main ou une femme qui veut se reprendre en main. Ayant eu des appartements toute ma vie au centre-ville de Québec, je suis parti de Québec, j'avais 33, 34. J'ai grandi là. Bien, j'ai grandi dans des logements où, oui, je côtoyais des gens qui avaient des problématiques de santé mentale. Puis je vais vous dire quelque chose, M. Frédéric. Tu sais, des fois, c'était pas évident à 3 heures du matin d'entendre crier, là. Comme si y a quelqu'un qui était en train de se faire poignarder en haut, mais pour elle, c'était juste un lundi après-midi, 15 heures, mais il était 2-3 heures du matin. Ça prend un profil de personne qui va venir habiter dans un logement, qui va être là pour les bonnes raisons. Oui, avec un peu d'accompagnement, mais il ne faut pas que ça dérange les autres locataires non plus, là. On est-tu trop cruel quand on pense, justement, en tant que locataire, à se dire « Attends un peu, moi, je veux des gens, puis je suis prêt à aider, mais je veux pas quelqu'un qui va me taper sur la tête 24 heures sur 24 à faire des crises, puis que la police soit tout le temps rendue là? »
Ouais, c'est sûr. Tu sais, là, après, puis c'est là qu'on va parler de comme quoi que ça prend des solutions adaptées aux différents profils. Tu sais, si on dit, là, mettons, pour une personne plus dans le profil que vous décrivez, avec un peu d'instabilité, bien... Peut-être qu'un profil maison de chambre avec une présence quand même sur place pendant un certain temps serait plus adapté.
Des logements supervisés, ça?
Bien, ou semi-supervisés, ça existe aussi. Il y a des modèles comme ça qui se développent. À Montréal, ils sont très créatifs là-dessus là, actuellement, vu que la crise de l'itinérance est beaucoup plus importante de leur côté.
Ouais.
Donc, un peu dans cette perspective-là. Puis là, il faut se rappeler, dans les personnes qui sont présentement sans logement, qui se retrouvent à la rue, qui sont à haut risque de se retrouver à la rue, c'est pas toutes des gens avec le profil que vous décrivez.
Exact.
Là. T'sais, donc là, il y en a, c'est beaucoup plus éclaté. Il y en a des travailleurs. Il y en a qui sont plus loin du marché du travail aussi. Puis c'est pas parce qu'ils seront pas capables, c'est juste parce que là, présentement, ils ont besoin de se ressaisir et se replacer autrement. Bien, tu sais, on parlait tantôt de personnes âgées. Tu sais, je pense pas que c'est des gens qui vont déranger nécessairement. Mais là, si on n'arrive pas à trouver des alternatives pour eux, bien, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de les envoyer vers des services comme l'Aube-Rivière ou ailleurs.
OK. Donc, là, vous avez fait un recensement cette nuit. Malheureusement, on n'a pas les chiffres. Mais pour 2022, on avait constaté qu'il y avait un accroissement de la population itinérante dans nos rues. Est-ce que vous avez l'impression, de votre œil d'expert, que ça a augmenté encore pas mal?
Bien, écoutez, tous les derniers chiffres qu'on a eus, donc les deux premiers dénombrements puis l'énumération qui est sortie l'année dernière, on a une augmentation à peu près là, entre 8 et 10 % par année là, de l'itinérance qui est assez régulière. Donc, entre le premier puis le deuxième dénombrement, 2018-2022, on avait 36 % d'augmentation. Puis là, avec toutes les limites que je vous ai mises sur l'énumération tantôt, ça nous établit une tendance générale, là.
Ouais.
Mais quand même. Puis ben avec l'énumération, ça, c'est vraiment au niveau de l'itinérance hébergée, là. Donc, dans les hébergements là, d'urgence transitoire et tout ça, entre 2022-2024, on a vu 16 % d'augmentation. Donc, on parle vraiment là, d'à peu près là, 8-9 %, 10 % des fois là, d'augmentation.
Avec la gang de la station, on a ramassé des fonds pour la bouchée généreuse.
Oui.
Puis je trouvais que c'était vraiment nice la part d'une entreprise d'embarquer là-dedans. Puis avec tous les employés de la station, avec nos auditeurs, on a fait un gala, puis on a invité tout le monde.
Super belle cause.
C'est un gala de lutte, puis on les a encouragés. Mais en tant qu'individu, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à contrer cette itinérance-là? Est-ce quelque chose qu'on peut faire en tant qu'individu? Parce que c'est beau en parler à la radio, mais moi, je peux faire quoi concrètement demain matin pour aider mon prochain?
Bien, ce qui peut être super intéressant, là, déjà pour démystifier un peu les choses aussi, parce que là, on n'a pas toujours une compréhension si claire là, de c'est quoi ce phénomène-là et qu'est-ce qui se passe, mais c'est d'apprendre à connaître là, les organismes de votre quartier. Parce que des organismes communautaires, là, il y en a vraiment partout sur le territoire, puis ils font un job vraiment extraordinaire dans le contexte actuel. Puis pour répondre là, aux besoins de ces populations-là là, qui se présentent de plus en plus nombreux à la porte, bien, c'est eux autres là, qui sont souvent là, en première ligne là, pour répondre à ces besoins-là. D'aller donner un coup de pouce de ce côté-là, faire un don, Ou juste aller jaser et dire, hey, là, je sais pas. Je pense que ça peut être super apprécié.
Frédéric Keck, merci d'exister, vous et toute votre équipe. C'est belle fun de vous avoir à Québec avec nous autres. C'est très bien ce que vous faites. Vous êtes directeur adjoint partenariat et itinérance au CIUS de la capitale nationale. Vous avez été aussi travailleur de rue. C'est le genre de choses que j'aurais aimé jaser avec vous pendant encore quelques minutes. Mais
on se reprendra.
On me dit que vous avez une fois. Oui, on me dit que vous êtes très occupé.
On va respecter ça.
C'est bon.
Un gros merci. 10h56, on s'arrête. 418-971-1021, 418-971-1021. Juste répéter les endroits où on peut s'informer quand on sent que ça va pas super bien puis qu'on n'est plus capable de payer notre loyer ou encore qu'on est rendu à la rue maintenant. C'est quoi ces endroits-là?
Ben écoutez, quand ça va pas super bien, 8-1-1, c'est toujours une belle référence. Ils vont pouvoir vous orienter. Oui, c'est ça, 8-1-1. Sinon, ben, il y a le service de l'OMHQ. Là. Si vous allez sur le site de l'OMHQ, là, il y a un service d'aide là, à la relocalisation puis à la recherche de logement qui existe aussi.
Merci d'être passé. Bye-bye.
Le garage à Dan, Dan Caron.
Ça me touche toujours beaucoup quand je jase avec des gens qui s'occupent de l'itinérance à Québec, qui essaient d'aider ces gens-là, que ce soit des ressources ou encore que ce soit des employés, comme M. Keck, c'est un employé du gouvernement, c'est un employé du CIUS de la capitale, puis il essaie de tant bien que mal d'aider à la situation puis d'améliorer les choses.
Il y a des travailleurs de rue, là.
Ouais, des gens qui font des métiers qui... je sais pas si c'est des métiers qui vont faire en sorte que tu vas être multimillionnaire dans 20 ans.
Non.
Mais c'est un métier où t'as la paye directe quand ça fonctionne, t'es patente.
Ben moi, j'ai toujours admiré les gens qui travaillaient au niveau du
quand tu sors quelqu'un de la rue.
Oui, c'est ça. Ben c'est que c'est valorisant. J'ai l'impression, t'as l'impression d'avoir vraiment fait une différence dans la vie, là, t'sais, au quotidien de quelqu'un. Mais non, je pense pas que c'est les emplois effectivement les plus rémunérés. Malheureusement, c'est à la base de la société quand tu y penses, là.
Ouais.
Mais non, je pense pas que ces gens-là font beaucoup d'argent et pourtant ils en font tellement.
Exact. Puis tu sais, la maladie mentale, c'est hyper complexe. Puis quand on parle d'itinérance à Québec, on le dit souvent, on vous le rapporte souvent, ce chiffre-là. Là, puis j'ai hâte de voir s'il va y avoir de nouvelles études ou de nouveaux chiffres disponibles dans les prochaines années. Mais 80% des interventions policières au centre-ville de Québec, ça touche la maladie mentale. Si on met pas plus d'argent pour aider ce monde-là, ça va juste faire en sorte que ce monde-là iront pas de mieux en mieux.
Puis c'est au point, c'est bon ce que tu dis, Anne, parce que c'est au point où en ce moment, en technique policière, quand tu fais tes études, ils ont agrandi le volet santé mentale. Ils ont ajouté ça parce que ça fait tellement partie du quotidien des policiers qu'ils n'ont pas le choix de leur montrer comment agir en travailleurs, travailleuses sociales. Ils ont ajouté finalement de la matière pour les aider parce que c'est pas naturel chez tout le monde, on va se le dire. Là.
En même temps, tu sais, je comprends le fait qu'on donne une base aux policiers, mais c'est pas leur travail.
Non,
mais
on
je pense
plus
que c'est hier à Montréal, hier ou avant-hier, il y a eu une arrestation, un homme qui était en crise, là, des problèmes psychologiques assez graves. On ne sait pas s'il avait été intoxiqué par la drogue ou si c'est son cerveau qui est en train de disjoncter, mais 6 policiers qui avaient de la difficulté à le maîtriser. Tu sais. Puis il y a des gens qui ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne une intervention policière, qui disent « Hey, c'est 6-1 ». Bien, sachez que quelqu'un qui est en crise, que ce soit un homme ou une femme, là,
c'est ce qu'il y a de plus prudent.
Est rempli d'adrénaline. Okay? Et si quelqu'un tente d'intervenir pour essayer d'empêcher Audrey d'avoir sa crise puis d'essayer d'y mettre les menottes...
Bonne chance!
À un moment mais il n'y aura pas le choix de t'assommer. Il n'y aura pas le choix de t'assommer. Puis là, toi, tu vas te défendre, tu ne voudras pas te faire assommer, fait que tu vas lui donner des coups. Puis là, ça va finir que les deux personnes vont être ensanglantées, puis on ne sait pas qui va avoir gagné des deux. Mais s'il y a une intervention policière où chaque policier peut prendre un membre, un bras, une jambe, tenir la tête, puis après ça, joindre les bras par derrière pour pouvoir mettre les menottes...
Ils doivent être 5, idéalement.
Il n'y aura personne qui sera blessé dans cette intervention-là. Mais on juge beaucoup les policiers, mais... Tu sais, je vous le dis, là, j'ai resté au centre-ville toute ma vie, puis c'était pas évident d'avoir des gens qui étaient autour de soi, qui habitaient dans des logements, puis tu côtoyais la santé mentale des gens qui avaient... Tu sais, ils ouvraient la porte de leur logement, ça sentait le cadavre à l'intérieur de leur logement, mais tu sais, c'était comme ça. T'sais, moi, c'était ma vie. J'avais 18-19 ans, puis j'avais pas le choix. Fait, je partage ma vie avec ces gens-là, puis c'était tough, là. Tu sais, à 2-3 heures du matin, quand toi, t'avais de l'école le lendemain matin, t'as fait réveiller par la police qui dit, là, faut que tu sortes, on a un individu en crise, et on pense qu'il est armé.
C'est tellement triste.
Et toi, tu veux juste aller au cégep le lendemain, là.
Ah oui, ben oui.
Tu sais, c'était assez complexe.
Tu dis, Yann, c'est pas leur travail, techniquement, aux policiers.
Ah non, c'est pas leur travail.
C'est plate, là, mais j'ai l'impression que ça va devenir un peu leur travail.
Mais faudrait pas. Je parlais avec...
C'est même les suicides, là.
Avec Roger Ferland hier.
Oui.
Puis, tu sais, l'idéal, c'est de toujours avoir soit un éducateur spécialisé comme ressource proche, soit une travailleuse sociale.
Il en manque déjà, imagine.
Oui, mais faudrait qu'il y en ait dans un... L'autopatrouille du superviseur, peut-être. Ouais. Tu sais, l'autopatrouille du superviseur, quand il y a une problématique de santé mentale sévère, de faire venir le superviseur avec le travailleur spécialisé en santé mentale, c'est une bonne chose à mes yeux, à moi. Puis les policiers, ben, ils peuvent courir après les méchants. Plutôt que de...
Ben, à ce moment-là, il faudrait quasiment qu'ils soient deux, parce qu'on a parlé plus tôt cette semaine avec une travailleuse sociale qui, elle, travaille avec les services d'urgence. Fait qu'elle est dans les autos de patrouille, mais pour aider les policiers qui vivent des choses marquantes. Fait que peut-être qu'il faudrait effectivement qu'on élargisse ça. Mais c'est dur, tu sais, il en manque. Puis il y a des jeunes qui sont plus intéressés à faire ce type de métier-là, parce que des fois, la santé mentale, ça fait peur. Hein? La santé mentale, là, c'est pas juste ça, je suis en dépression, tu l'as dit, là. C'est des psychoses, c'est des affaires particulières, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui sont pas très attirés non plus par ce volet-là de terrain.
Oui, puis avec M. Kak, j'ai eu comme un petit élan de tristesse parce que on prend toujours le cas type du monsieur ou de la madame qui est seule dans son logement. Puis malheureusement, il y a un propriétaire qui arrive, puis là, il regarde un peu, là, j'ai payé l'immeuble tel montant, ça me donne des paiements de temps par mois, j'arrive en dessous, je vois qu'il y a une dame ou un monsieur qui est là depuis 30 ans, qui paye pas la même chose que les autres, mes autres loyers sont à 2100$, puis lui, il est à 750$. Alors, je vais faire rentrer ma mère, parce que j'ai le droit de le faire, fait que je vais faire rentrer ma mère. Fait que là, j'envoie une lettre au monsieur ou à la madame qui est là depuis 30 ans en disant... Ben là, je suis désolé, je vais devoir prendre votre logement. Faut que je loge ma mère. C'est souvent des arnaques, là. Mais faut qu'il loge sa mère. Ouais. Fait que là, le monsieur quitte, mais il réussira jamais à se trouver un logement à 700-800$. Tu sais, l'argent qu'il y a, il y a peut-être juste sa petite pension. Ça sera pas suffisant pour se trouver un nouveau logement. Fait que ma tristesse, c'est... On va peut-être être comme ça, toi puis moi, plus tard,
ouais.
Là.
Ben oui.
C'est peut-être ta mère qui va être comme ça plus tard. C'est peut-être tes grands-parents qui vont être comme ça plus tard. Fait que, tu sais, c'est quoi tes ressources? Tu vas au CLSC, t'appelles le 811. Moi, je trouvais ça très cool que M. Kak nous parle du 811 parce que je l'avais entendu parler du 811, puis c'est un numéro de téléphone que tout le monde devrait connaître. Mais tu t'en vas où, là, quand tu te fais sacré dehors à 70 ans?
Tu t'en vas où? Puis ces gens-là, souvent, ils n'ont pas de famille.
C'est humiliant. T'as travaillé toute ta vie. T'as peut-être pas été capable de t'en placer autant que tu pensais. Tu travaillais pas pour un milieu où on te donnait la chance de t'accumuler une retraite, tu sais. C'est tough, là.
Non, mais t'as raison. C'est épouvantable. Moi, on a déjà jasé ensemble, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai le sentiment que mes parents ont pris soin de moi, je vais prendre soin d'eux.
Moi, je suis vraiment tannant, mais Robert Giffard me traîne dans la tête depuis des années. Rouvrons cet endroit-là, faisons un service d'hôtellerie avec toutes les ressources possibles pour aider ces gens-là.
Oui, mais là, il l'a dit, c'est encore un hôpital psychiatrique, puis c'est les bureaux qu'il faudrait peut-être enlever
de
là.
C'est les bureaux de fonctionnaires, parce que comme on l'a dit, il y a d'autres services qui sont maintenant là-bas, mais ça, on peut tasser ça, là. On a une place pour loger des gens à Québec, mais on ne l'utilise pas, alors que ça servait à ça dans le temps. Puis l'idée, c'est pas de faire une prison pour eux, l'idée, c'est de les mettre ensemble avec les ressources nécessaires, toutes les nourrir pour qu'ils manquent absolument de rien, puis veiller à ce que ces gens-là soient dans le confort tout en ayant un espoir qui réintègre la société.
C'est plate, Yann, mais ça paye pas. Puis tu l'as bien dit tantôt, là, pour un politicien, c'est pas la première chose sur laquelle tu décides de mettre ton énergie. Là.
Peut-être que, tu sais, moi, je juge beaucoup une société à la façon dont elle traite ses enfants puis ses aînés.
Mm-hmm.
Peut-être qu'on trouvera un jour ce genre de politicien-là ou politicienne qui va se dire, savez-vous quoi, ça sera crissement pas payant pour moi politiquement. Mais vos grands-parents, ils se retrouveront pas dans la rue. Puis si jamais ils ont une problématique de santé mentale, ben sachez qu'il y a un endroit à Québec où on peut les accueillir sans problème.
Oui, mais cette personne-là ne sera jamais au pouvoir.
Y a-tu de la place? Il y en a de la place en masse.
Mais ça ne marchera jamais.
Pourquoi?
Mais parce que là, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses campagne sur un mensonge. Parce que ce qui intéresse les gens...
Mais ils font juste ça.
C'est le système... Oui, non, mais
Bruno Marchand a été élu sur des mensonges.
On se comprend. Ce que je veux
dire... Le maire Labeaume a été élu sur des mensonges.
Ce que je veux dire...
François Legault a été élu sur des mensonges. Fait que mentons, puis devenons élus. Tu voulais dire?
Ce que je veux dire, merci, c'est que il y a faire campagne sur des mensonges, comme on le vit en ce moment, puis il y a dresser un portrait qui sera pas du tout ça. Puis là, je m'explique, c'est d'être élu parce que tu dis que tu vas baisser les taxes ou peu importe ce qui touche la majorité des gens, là, tu comprends? Puis décider tout d'un coup que tu changes ton programme de bord en bord, puis là, tu es au pouvoir, ça fonctionnerait pas.
Mais
là,
qui pourrait être contre ça? Trouver un endroit à Québec qui existe déjà, puis on le convertit en service d'hôtellerie. esprit.
Mais on est individualiste, comme, ça marchera pas.
Un peu comme l'ancienne armée du salut, là, sa côte du palais qui est en train d'être transformée pour pouvoir accueillir ces gens-là. On en a de la place en masse à Québec.
Je suis 100% d'accord avec toi.
Des bureaux de fonctionnaires qui sont inoccupés. On peut faire des gros dortoirs.
Le point, c'est que c'est pas ce sur quoi les politiciens se concentrent parce que c'est pas ce qui est payant pour eux. Parce que la moyenne des gens, tu comprends, qui vont voter, qui se déplacent, eux, ce qui les intéresse, c'est leur petit portefeuille et leur petit nombril. Est-ce que j'ai mes services? Est-ce que je paye moins de taxes? Est-ce que j'ai assez d'argent? C'est pas ça qui les intéresse. Puis je suis d'accord avec toi, ça m'entend, maudit toi. Je suis à la même place que toi. Mais c'est pas ce,
fait qu'on pas est les deux seuls.
Non, on n'est pas les deux seuls. Mais c'est pas la priorité des gens.
Avec le fils de Garou, là, on est les deux seuls.
C'est pas la priorité.
Un stagiaire en studio, en passant. On est les deux seuls qui pensent qu'on pourrait mettre des gens.
Ben, 88-971-1021.
Moi, je voterais pour cette fille-là ou ce gars-là qui met ça en place.
88-971-1021. Moi, je pense que si ton programme n'est que basé sur les gens en difficulté, ça marche pas.
Ben non, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu essaies d'aider tout le monde. Mais ça, je trouve que ça pognerait à Québec. On n'est pas comme Montréal. On les laisse pas crever dans les rues. Nous, à Québec, on fait les choses différemment. S'ils ont une problématique, ça fait 2-3 fois qu'ils se font prendre au centre-ville de Québec par ce qu'ils font, sont intoxiqués sur la rue. Ben nous, on les envoie là. Puis là, ben, c'est un séjour de 7 jours la première fois, séjour de 14 jours, séjour de 21 jours, séjour d'un mois. Puis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu veux-tu revenir ici aux 2-3 semaines ou tu veux recommencer l'école? Tu veux-tu te trouver un logement? Ah, tu veux te trouver un logement? Parfait, voici les ressources nécessaires. Tu as besoin d'une infirmière, tu as des maladies vénériennes, tu as une maladie qui traîne. On est là, les médecins sont là. Fais la file, tu vas voir, tu vas rencontrer un médecin. Il n'y a pas personne qui pourrait être contre
mais tu ça. Tu ne peux pas, si tu as des bonnes valeurs à bonne place, être contre ça, effectivement. Mais tu sais, on dirait que tu dis tout ça. Puis là, hey, puis je gosse pour gosser en passant. Là, je là j'entends du monde, tu sais, j'entends du monde dire, ben oui, mais là, on va mettre toutes nos ressources sur ces gens-là qui se sont laissés tomber eux-mêmes. Puis pendant ce temps-là, nous autres, population moyenne, on n'a aucune ressource.
Écoute, peut-être qu'on en parlera tantôt sur l'heure du midi, Audrey, dans le Petit Top. Mais à Québec, là, il y a eu un appel d'offres, OK, pour un produit X. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails là, parce que ça a été raconté au conseil de Villiers. Mais il y a eu un appel d'offres pour un produit X. Il y a une compagnie, il y a deux compagnies qui ont soumissionné, puis il y en a une qui a soumissionné à 235 000 $ de moins. Mais cette entreprise-là qui a soumissionné à 235 000 $ de moins, elle avait fait une erreur dans le formulaire A657-268. Elle n'avait pas écrit la bonne affaire sur la bonne annexe. Donc, le fonctionnaire voit deux feuilles. Un que c'est 235 000 plus cher, l'autre que c'est 235 000 moins cher, mais à l'annexe 258-653-364...
Une chose est plus chère.
Il y a une virgule qui n'est pas à bonne place. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le fonctionnaire? Hey, attends un peu, même si c'est 235 000 $ moins cher. Ah. Puis qu'est-ce que Capitaine Bretel, Pierre-Luc Lachance a dit? C'est comme à l'école secondaire. Quand vous n'avez pas la bonne réponse, ben vous n'avez pas votre note.
Non, ça, c'est complètement ridicule.
Mais vous travaillez pour qui? Travaillez-vous pour les citoyens de Québec? Vous êtes des professeurs d'école?
Visiblement pas pour les citoyens de Québec.
Fait que le 235 000 $ qu'on aurait pu sauver, là, Audrey, on aurait-tu pu le mettre ailleurs?
Hey, Yann, je suis 100 % d'accord avec toi. Il y a des gens qui disent sur le texto, présente-toi en politique, je vais être dans ton équipe de bénévoles. Écoute, je vais t'assister. Je vais être ta co. Je vais être là.
Je peux en parler parce que je l'ai dit quand Eric était là, mais... Quand il y a eu les premières élections où Éric était chef du Parti conservateur, okay, il cherchait des candidats. Puis à un moment donné, il me dit « Marceau, je réponds, je dis « Oui, allô, dit, salut, c'est Éric, salut Éric, ça va? » Il dit « Marceau, j'ai besoin de toi en bas, je veux que tu te présentes pour le Parti conservateur. » « Bye, Éric. » « Oui, allô, salut, c'est Éric. Moi, là, un nom, ça suffit pas. Je veux que tu te présentes pour le Parti conservateur en Beauce. » Il m'a appelé 4 fois en ligne.
Pourquoi t'es pas allé?
Parce que je suis pas capable d'être contrôlé par un message. S'il y a quelque chose qui arrive dans ma carrière politique...
Mais tu penses que quelqu'un, à un moment donné, peut se présenter puis ne pas être contrôlé par le message parce que c'est ce qu'on espère, au final?
Ils sont tous contrôlés par le message en haut puis sont obligés de faire exactement ce que le chef et son équipe demandent de faire. Tantôt? Mais moi, je ne suis incapable. Je suis pas capable de faire ça. Puis j'en parlais encore avec Éric la semaine passée. Il me dit, penses-tu un jour y aller en politique? Je pense pas que je sois bon pour un parti. Je pense que je serais vu comme Satan dans la place.
Ben, t'as définitivement pas le caractère assez, patient.
Il y a des choses qui sont indéfendables, puis que les politiciens défendent quand même.
L'injustice te touche trop, effectivement, pour que tu puisses te faire trop longtemps.
À matin, la gang de Rage Against là, parlait justement des peines Netflix là, à la maison. Puis il y avait Simon Jolin-Barrette. Simon Jolin-Barrette, là, c'est le gars qui s'exprime le mieux dans nos politiciens. C'est un gars qui fait constamment attention à la façon dont il dit les choses, comment le message peut être perçu, puis il essaye toujours de ne pas se mettre dans l'embarras. OK? Fait que là, Reg a posé une question hyper brillante, c'est-à-dire, mais comment c'est venu ça, les peines Netflix? Pourquoi le fédéral a décidé que des violeurs de femmes pouvaient purger des sentences? C'est peut-être moi qui mets ça à ma sauce, là. Mais pouvaient purger des sentences à la maison. Et Simon Jolin-Barrette, plutôt que de dire la vérité, OK, ce que moi j'aurais fait, là, plutôt que de dire la vérité, il a tout simplement dit, ben je laisse au Parti libéral du Canada le pouvoir de s'exprimer sur la chose. Mais moi, je suis dans mon char, j'entends ça. Je le sais pourquoi il fait ça, parce qu'il veut pas mettre le Parti libéral du Canada à l'embarras. Mais les peines Netflix, Justin Trudeau regardait les statistiques à la grandeur du Canada, puis là, il a vu qu'il y avait beaucoup trop d'Autochtones. C'est pas des jokes, là. Il a vu qu'il y avait beaucoup trop d'Autochtones qui étaient en prison comparativement à la population blanche, puis il y avait beaucoup de personnes racisées comparativement aux gens qui sont blancs. Fait que là, il a dit, attends un peu, là, les chiffres pour les Noirs sont trop élevés, les chiffres pour les Autochtones sont trop élevés.
Moi, j'avais entendu que c'était une question de trop de monde dans les prisons, plus de place.
Non, c'est pas ça.
Okay,
c'est
vas-y.
Pas ça. Pierre-Hugues Boisvenu l'a bel et bien expliqué.
Je t'écoute,
il était
vas-y.
Sénateur, il a travaillé là-dessus. C'est parce qu'il y avait trop de personnes racisées à l'intérieur des prisons à la grandeur du Canada. Et le fédéral ne voulait pas être accusé d'être un pays raciste. Donc, on a décidé d'établir la possibilité pour ces gens-là, les personnes racisées, puis les gens autochtones, de pouvoir purger des peines à la maison. Sauf qu'une fois rendu à Québec, là, à cour ici, là, au Palais de justice de Québec, là, le juge ne peut pas décider, tu sais, Audrey, t'as fait un crime, t'as agressé sexuellement une femme, mais t'es blanche, fait que toi, tu vas aller en prison, puis la personne d'après qui a fait la même affaire que toi,
elle n'est pas de la même couleur. Fait que si je te suis, ça s'applique à tous.
Ben, ça s'applique à tous. Fait que tout le monde, maintenant, à grandeur du Canada, peut avoir sa peine Netflix si c'est applicable. Mais au départ, c'était pour sortir les Amérindiens qui étaient dans les prisons, c'était pour sortir les personnes racisées qui étaient dans les prisons.
Tu m'en apprends une, je savais pas,
parce que les statistiques, Audrey, était épouvantable.
Ben, à base, les prisons débordent du cours, là. Mais moi, tu vois, tout ce qui est peine Netflix, là, à la limite, si on n'a pas le choix, là, j'ai bien de la misère avec tout ce qui est crime sur la personne. Là. Mais du monde qui ont fait des vols à l'étalage, tu comprends, chez eux, OK. Mais des gens qui ont commis des crimes sur la personne, j'ai un profond malaise à me dire que le gars qui a violenté une femme peut se retrouver sur son divan, se commander son épicerie. Tu peux tout faire de la maison maintenant en passant.
Mais
pas besoin de sortir de chez vous.
Quand je te dis que je suis un mauvais joueur d'équipe, si je suis un politicien, si j'avais été Simon Jolin-Barrette ce matin, puis Reg m'avait posé la question en disant, mais dites-moi pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de mettre ça en place, les fameuses peines Netflix, j'aurais dit exactement ça. Ben savez-vous quoi? Demandez-leur. Nous, ce qu'on sait, c'est parce qu'il y avait une trop grande représentativité des personnes autochtones puis des personnes racisées dans les prisons. Justin Trudeau se sentait mal de ça. Il a tout simplement décidé de mettre ça en place. Mais il l'a pas dit. Il a dit « Je laisse le soin au gouvernement libéral de vous expliquer pourquoi ils l'ont fait. »
C'est une game politique, là.
C'est une game politique, mais ça, je serais incapable de faire ça.
Mais je comprends. Je trouve ça ironique en même temps parce qu'il y a tout plein de Yannick comme ça qui potentiellement pourraient faire des sacrés bons politiciens, mais qui n'ont pas foi en le système. Fait que tu comprends qu'il ne changera jamais. Puis quand on parlait d'itinérance tantôt, ça revient un peu à ce que je te disais. Ça n'arrivera pas. T'sais, on a un maire en ce moment à Québec qui a promis l'itinérance zéro. Et il y a des belles affaires qui ont été faites d'internationales. C'est quoi? C'est 4 ou 6 mini-maisons de transition pour les gens qui vont sortir de la rue. C'est commencé à quelque part. Je suis bien d'accord avec ça. On ne peut pas charler contre ça. C'est vraiment une belle action. Mais c'est pas assez.
Mais c'est 4 mini-maisons séparées, alors que ça prendrait un édifice avec 2 000 à 3 000 petites chambres pour pouvoir loger tout ce beau monde-là.
On se comprend.
Mais on part à quelque part, j'imagine. Ça va être un beau projet pilote. Puis on a dépensé de l'argent. Puis on est bien contents. Mais souhaitons que ça marche.
C'est décourageant.
Non, pas du tout.
Ah, moi, je trouve... Qu'est-ce qui n'est pas décourageant?
Ben, nos auditeurs qui disent exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire...
Ben, mais ça changerait au gouvernement,
nous autres,
ça?
Ce qu'on voudrait, c'est des politiciens qui s'occupent de l'itinérance pour de vrai, oui, pas juste
on
le dire.
On a bien beau prier le ciel, tu comprends? Ça ne changera pas ce qui se passe.
Je
te
trouve très négatif.
Ben, je pense que je fais le de même aujourd'hui, puis pourtant, je suis la positive d'habitude, mais Yann et Christy, plus le temps avance, plus on en parle d'année en année, moins il y a des affaires qui changent, plus je me sens négative.
Audrey,
par rapport à la politique.
Si ta naissance était il y a 18 ans, t'aurais quel âge aujourd'hui?
J'aurais 18 ans, Yann. Va donc chez le bonhomme, vous avez.
À suivre sur TikTok.
Hey, ça, c'est chier. T'as pas le droit de dire ça.
C'est un teaser. Hey, puis demain, demain, on fait un open mic sans limite. C'est à partir de 19h.
Oui.
Fait que c'est toi, moi, avec des gens qu'on a invités qui ont plein accepté d'être là gratis.
Il y a Paul qui va être là, Nathan, oui, nos deux stagiaires, Max et Matt, vont venir faire leur tour. Christian Page a accepté.
Mon chum Christian.
Oui, il va venir nous conter des histoires de peur. Puis vous autres.
C'est pas des histoires de peur, c'est des histoires
véridiques,
encore inexpliquées
qui
se
font
sont
peur.
Passées à Québec.
Oui, mais ça fait peur. Fait que c'est des histoires de peur, des vraies histoires de peur. T'es un petit mieux. Puis on va avoir besoin de vous, les auditeurs. Twitch, on va être là, on va être en live TikTok aussi. Okay.
Fait que c'est à 19h.
Oui.
C'est jusqu'à...
Ça, c'est la bonne question. Tant qu'on aura de la jasette et de la bière, Yann.
Et de l'alcool.
Oui.
Corias, Mathusalem, qui s'en vient dans les prochaines secondes. Je te souhaite de passer une belle journée. À 14h, on t'écoute avec Denis.
Yes.
Et Véro, salut tout le monde.
Bye-bye.
J'ai dépensé toute ma paye, pas je suis trop sec.